les stéréotypes ont la vie dure. Et je dirais même que les stéréotypes se reviennent. Certes, il y a une partie de la population qui va être très attentive à ce genre de choses et qui va s'arranger pour que tout le monde, enfin, qu'un garçon puisse faire un métier dit de fille ou qu'une fille puisse faire un métier de garçon. Enfin, je veux dire, on s'en fout, quoi. Enfin, voilà, ils font ce qu'ils veulent. Et puis, il y a quand même toute une partie qui est en train au contraire, de faire une marche arrière.
Bonjour. Il y a des papiers sur la table, ils sont pliés et cachent des mots choisis pour notre invité. Ils vont nous aider à vous raconter son parcours et qui elle est. C'est le podcast des petits papiers. C'est à l'âge de 10 ans qu'elle se prend de passion pour les étoiles en les regardant depuis son jardin du Borinage. À partir de ce moment-là, elle s'intéresse à tout ce qui concerne le ciel et se nourrit de livres, de documentaires, de visites, de films sur le sujet. En 1999, elle sort des études avec un diplôme d'ingénieur civil. Il n'existe pas à l'époque de master en astrophysique. Elle en fera donc son doctorat. Aujourd'hui, elle est maître de recherche au FNRS. Elle enseigne à l'Université de Liège. Elle collabore à l'élaboration de nouveaux satellites. Elle étudie les étoiles massives. C'est sa spécialité. On va découvrir ce que c'est dans un instant. Elle a aussi à cœur de rendre la science accessible et est considérée comme une des meilleures vulgarisatrices de l'astronomie et de la science. Elle le fait à travers des conférences, des livres, des expositions. Dès qu'il y a moyen d'expliquer, de faire comprendre, elle est là. La preuve, elle a répondu à l'invitation des petits papiers. L'astrophysicienne Yaël Nazé est avec nous aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là.
De rien, merci à vous.
C'est vrai hein, que quand il y a moyen d'expliquer ou de faire connaître, de vulgariser, vous êtes toujours la première.
On essaie, hein. C'est vrai que l'astronomie c'est un secteur aussi qui fait un peu toujours rêver, donc c'est l'occasion en fait de pouvoir parler de science et de reconnecter finalement les gens, pas seulement avec le ciel, mais aussi avec les sciences, avec l'activité scientifique, puisque finalement ça fait partie de la culture et on en parle peut-être un petit peu moins.
L'astronomie, ça fait vraiment partie de la culture. On en discutait avant de commencer cette émission, on en parlera tout à l'heure. Il y a des liens entre astronomie et culture à plein de niveaux différents.
Oui, l'astronomie fait vraiment partie de la civilisation depuis très très longtemps, hein, même dans la préhistoire. Hein, on voit vraiment des liens intrinsèques entre plein de choses et l'astronomie. Et donc on a ces liens très forts avec la musique, avec les beaux-arts, avec plein de choses. Et donc forcément, quand on parle d'astronomie, on peut aussi parler de plein d'autres aspects aussi. Profiter du fait que l'astronomie a été faite partout et donc de montrer que finalement que ça soit on prend des aborigènes, des inuits, on a plein de gens qui font de l'astronomie et c'est l'occasion aussi de découvrir d'autres cultures.
Et oui, parce que tout le monde regarde le ciel.
Exactement.
C'est quelque chose que l'humanité entière partage.
Tout à fait. On partage le même ciel et on va tous regarder le ciel à un moment donné. Alors aujourd'hui, avec les téléphones et tout ça, on regarde peut-être un peu moins.
On regarde un peu moins en l'air, c'est dommage. Hein.
Oui, mais disons, pendant très longtemps, évidemment, le ciel, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement utile. Hein. Ça permettait de fixer le temps, ça permettait de se déplacer. Donc il y avait vraiment plein de choses liées au ciel directement dans la vie de tous les jours. Et puis il y a le fait que c'est quand même très joli, très mignon et très inspirant. Et donc voilà, on a plein de choses en plus qui sont venues se greffer sur ce ciel habituel.
Alors Yaël Nazé, j'ai dit votre spécialité, une de vos spécialités, c'est les étoiles massives. Je ne savais pas ce que c'était, mais en fait c'est des grosses étoiles qui sont plus grosses que le Soleil, beaucoup plus grosses et du coup beaucoup plus lumineuses aussi.
Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que les étoiles, quand elles naissent, donc ça part d'un nuage hein, qui se fragmente en morceaux. Et alors, il y a des petits morceaux, il y a des gros morceaux. Donc, il y a des petites étoiles et il y a des grosses étoiles. Et donc, on se retrouve avec des étoiles qui peuvent faire un dixième de la masse du Soleil jusqu'à des étoiles qui peuvent faire 100 fois la masse du Soleil. Et moi, celles que j'étudie, c'est celles qui ont au moins 10 fois la masse du Soleil. Ce sont des étoiles qui vont être très, très chaudes, qui vont être très, très lumineuses et qui, certes, elles ont plus de carburant au départ puisqu'elles ont plus de masse, mais comme elles brillent énormément plus, donc des millions de fois plus, elles vont utiliser leur carburant plus rapidement et donc en fait elles vivent très très peu de temps. Donc le Soleil vit 10 milliards d'années, moi j'ai des étoiles qui vivent quelques millions d'années et donc elles sont déjà rares à leur naissance, mais comme elles vivent peu de temps, elles sont encore plus raréfiée. Et donc, voilà, alors que ce sont des étoiles extrêmement importantes, je les appelle souvent les reines de la population stellaire, parce que elles vont dominer plein de choses, en fait, dans les galaxies. Elles vont créer de nouvelles générations d'étoiles, elles vont sculpter les nébuleuses, elles vont faire plein de choses. Et donc, c'est important de les comprendre, mais malheureusement, comme elles sont rares, c'est vrai qu'il reste encore plein de choses à apprendre.
Alors, je vais poser des questions naïves plusieurs fois pendant cette émission. À quoi ça sert d'étudier ? Vous dites que c'est important de les comprendre. À quoi ça sert pratiquement pour nous sur Terre, de comprendre ces étoiles? Qu'est-ce que ça nous apporte?
Je peux vous donner la version politiquement pas correcte, hein. Je vais dire que ça ne sert à rien. Ouais. Comme toute science fondamentale, l'astronomie ne va pas servir à quelque chose de pratique. C'est pas ça qui va vous mettre du beurre sur votre tartine le matin, c'est pas ça qui va vous faire fonctionner votre voiture ou quelque chose comme ça. Donc, on est dans de la science fondamentale qui, fondamentalement, ne sert à rien directement. Une fois qu'on a dit ça, on peut se dire finalement, il y a plein de choses qui ne servent à rien. Une pièce de théâtre, ça ne sert à rien. Une chanson, ça ne sert à rien. Il y a plein de choses qui ne servent à rien, ouais, mais qu'on fait quand même. Et je crois que quelque part, c'est un peu ça qui nous différencie, les humains, du reste. C'est que justement, on fait plein de choses inutiles, quelque part. Et la science, les arts sont justement partie de ces choses qu'on fait en plus. Et puis,
mais qui ne sont pas si inutiles que ça.
Alors voilà, le truc c'est qu'elles sont inutiles parce qu'elles ne vont pas nous faire manger par exemple, elles ne vont pas nous aider pour nous soigner, mais quelque part elles nous aident à faire plein d'autres choses, à découvrir le monde, à appréhender le monde, à le comprendre ou à essayer de le comprendre. Et puis il y a aussi des choses, quelque part pratico-pratiques, qui en découlent bien longtemps après, parce que l'astronomie... en utilisant les étoiles, on peut se déplacer. Encore aujourd'hui, il faut des satellites pour faire fonctionner nos GPS. On n'aurait pas de satellites si on n'avait pas fait d'astronomie. Et donc, il y a des aspects aussi qui vont nous permettre pas seulement de comprendre d'où on vient et où on va, c'est un peu ça, quelque part, l'astronomie, mais aussi véritablement des applications pratico-pratiques, mais qui ne sont pas si évidentes que ça, a priori. Donc, quand on fait ces recherches au départ, elles ne servent à rien, et quelquefois, un siècle, 10 siècles après, on se rend compte que finalement, si, c'était quand même utile.
C'est décourageant parfois, parce que vous dites, pendant qu'on les fait, peut-être qu'on se dit que ça ne sert pas, mais que les bénéfices seront dans 10 siècles. Est-ce que parfois on se décourage quand on est sur quelque chose qui est...
Pas vraiment. D'abord, parce qu'on est persuadé, évidemment, si on fait ce genre de recherche fondamentale, tout comme un artiste, va être persuadé que c'est important et c'est intéressant. On est passionné, évidemment, par ce genre de choses, d'essayer d'augmenter ces connaissances, d'essayer d'améliorer notre compréhension de l'univers. Et puis, en parallèle, en astronomie, on a une tradition qui est très, très forte. Enfin, je veux dire, on va rechercher parfois des données qui ont des années, voire des siècles, voire des millénaires. Et donc, on a cette idée très forte qu'on est dans un continu. Ouais. On apporte une petite brique, mais on sait bien que ce n'est pas nous qui allons construire la cathédrale, quoi. Donc, ce n'est pas très grave. Ça a toujours été comme ça et chacun apporte un peu sa petite contribution. Et donc, on a quand même cette idée très forte de continuité. Et c'est aussi valable parce que, si je prends aujourd'hui à l'époque moderne, quand on fait des projets de satellites, ça prend des décennies. En fait, on ne s'en rend pas compte, mais on a d'abord l'idée. Puis, entre le moment où on a l'idée de ce nouveau télescope, de ce nouveau satellite, et le fait qu'on l'envoie, souvent, il se passe 10, parfois 20 ans. Et puis, une fois qu'il est envoyé, il faut encore l'utiliser. On a des missions qui fonctionnent depuis des décennies. On pense au télescope spatial Hubble, à XMM Newton. Ce sont des missions qui ont duré très longtemps. Et le pire, c'est qu'il y a des missions qui sont parties il y a des décennies et qu'on utilise encore aujourd'hui. Donc, ce sont des choses qui sont sur des durées de vie très fortes. Donc, actuellement, quand on prépare une mission, on ne la prépare pas pour nous, en fait. On la prépare pour la génération suivante. Parce que quand elle partira, nous, on sera à la retraite. Donc, on ne les utilisera pas. Donc, je veux dire, l'astronomie, c'est aussi cette idée de très longtemps. Et je crois que quand on s'embarque là-dedans, on le sait que c'est pas que pour nous maintenant, quoi. C'est vraiment quelque chose qui suit la ligne du temps et on est pris dedans. Et voilà, on va faire une toute petite contribution, mais c'est pas grave.
Yael Nazé, est-ce qu'il faut faire une différence? Est-ce qu'on doit dire que vous êtes astronome ou astrophysicienne? Quelle est la différence entre les deux?
Ah, ça, c'est du marketing au 19e siècle, en fait. Bon, souvent, on parlait d'astronomie. En fait, à partir du 19e, on a commencé à mettre un petit peu plus de physique dans l'astronomie. Et donc, sont arrivées des choses comme ce qu'on appelle la spectroscopie et d'autres choses comme ça. Et donc, en fait, pour se différencier, les nouveaux astronomes qui faisaient des choses un petit peu différentes, ils se sont dit, ah, nous, on ne fait pas de l'astronomie, on fait de l'astrophysique.
C'est la même chose.
Oui,
finalement.
À l'heure actuelle, il faut bien dire que les deux termes ont pris finalement le même sens. Et à part dans quelques cénacles à Paris où ils veulent encore séparer, il faut bien avouer qu'aujourd'hui, on utilise les deux de manière interchangeable.
Vous, vous dites quoi quand on vous demande votre métier ?
Oh, les deux, c'est pareil. Ouais. Moi, franchement, c'est l'un ou l'autre, ça me va.
Alors, le principe, c'est qu'on va parler de votre métier, on va parler de votre travail, de votre parcours. Mm-hmm. À travers des mots, les papiers sont posés devant vous. Je vous invite à en choisir un et à regarder ce que ça raconte.
On va prendre celui qui s'est mis tout en dessous, qui essaie de se cacher, là. Alors, qu'est-ce qu'il raconte ? Ah, demain. Ben voilà, on parlait justement du fait qu'on travaille pas seulement pour nous, on travaille pas pour aujourd'hui, mais on travaille justement là-dedans. Donc effectivement, l'astronomie, c'est beaucoup pour la suite, pour ce qui va se passer après. Et puis, bon, évidemment, demain, c'est aussi le côté génération suivante, donc former de nouveaux astronomes.
Oui. Vous donnez cours, d'ailleurs.
J'ai quelques cours, pas seulement
à l'Université de Liège. Vous donnez cours de quoi
Alors, moi, j'aime bien faire du multidisciplinaire, j'avoue. Et donc, j'ai un cours qui s'appelle Évolution des idées, qui est sur justement l'histoire de l'astronomie un peu partout dans le monde pour voir un peu comment ça a évolué. J'ai un cours de communication de la science, j'ai un cours d'esprit critique, d'initiation à l'esprit critique, qui n'est pas spécifiquement lié à l'astronomie non plus. Mais j'aime bien le côté multidisciplinaire. Donc, j'ai des cours un peu. À la marge, on va dire, un peu inhabituel.
Ça, c'est lié, l'esprit critique, la communication, on l'a dit, vous faites beaucoup de vulgarisation, de conférences, donc forcément, enseigner aux étudiants la manière de faire passer les choses, ça vous connaît, donc tout ça, c'est lié, finalement.
C'est lié, mais c'est aussi très personnel. C'est ce que j'aime bien faire, mais je connais des collègues qui, eux, ne veulent pas faire le même genre de choses, qui ne s'intéressent pas à l'histoire. Et donc, mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, chacun fait un peu sa popote. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours eu cette idée. J'aimais bien les sciences, mais ma prof d'histoire était persuadée que j'allais faire l'histoire. Donc, c'est toujours... j'ai du mal à limiter
votre champ
mon champ d'investigation et mon champ d'intérêt. Donc, aimant beaucoup de choses, on essaie de s'arranger pour mettre un petit peu de tout et de faire plusieurs choses quand même dans ce qu'on veut faire. Donc, voilà.
Alors, on a l'image, Yael Nazé, de un peu romantique, poétique comme ça, de l'astronome derrière son grand télescope qui passe ses soirées à regarder le ciel et à observer les étoiles. C'est pas tellement ça aujourd'hui. C'est quand même beaucoup d'heures assises derrière un écran à analyser des données.
Oui, ça n'aide pas pour le dos, soyons clairs. Oui, c'est cette idée romantique de l'astronome au télescope, ça fait bien longtemps que ce n'est plus le cas. J'ai même des collègues qui sont incapables de reconnaître une constellation dans le ciel. C'est vrai que moi, j'aimais bien regarder le ciel, donc forcément, j'ai encore aujourd'hui, on a un petit télescope, on regarde de temps en temps.
Vous demander si vous mettiez encore dans le jardin les soirs de ciel dégagé pour regarder les étoiles.
On le fait encore. Et même si c'est la 100e fois qu'on voit Saturne, c'est toujours aussi mignon.
Vous dites que vous le faites encore parce que je pense que votre mari est aussi dans le même domaine.
Oui, tout à fait. Donc on le fait à deux et... On met le télescope dans le jardin quand on sait. C'est vrai que...
Attendez, j'arrête un instant. Parce que vous le faites à deux. Vous mettez le télescope dans le jardin, mais quand deux astronomes regardent le ciel avec leur petit télescope dans le jardin, je dis petit télescope parce que j'imagine
C'est un petit, ça c'est clair.
Mais qu'est-ce qu'ils regardent ? Est-ce que c'est plutôt une observation scientifique ou est-ce que c'est une observation d'émerveillement et de...
Alors nous, on ne fait pas de mesure. Donc, on le fait purement pour l'émerveillement,
pour le plaisir de regarder
de regarder une nébuleuse, une galaxie, une planète. Mais alors, bon, évidemment, c'est vrai que c'est parfois comique. On a une fille, et alors, bon, même quand elle était toute petite, hein, on la tenait pour lui montrer Jupiter ou quoi. Et puis, en fait, dès qu'elle avait 5-6 ans, elle nous disait, oh non, pas encore Jupiter, quoi. mais nous, on s'en lasse pas, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que, par contre, c'est aussi bien d'évoquer le sujet. Il y a des astronomes amateurs qui font de vraies mesures, des mesures scientifiques, en fait, et qui partagent après avec les scientifiques. Et donc, nous, dans notre cas, comme on travaille souvent sur des étoiles brillantes, on travaille avec ces astronomes amateurs-là, qui peuvent être un peu partout dans le monde et qui ont pris justement des données. Et ces données sont tout à fait intéressantes et utilisables. Hein, mais oui, c'est même des données qu'on ne pourrait pas avoir autrement. Voilà, oui, nous, on le fait juste pour le plaisir, mais il y en a qui le font de manière, on va dire, plus sérieuse, quoi, et avec un but scientifique derrière. Nous, c'est vrai que la science, c'est la journée, le soir, c'est pour rêver.
C'est la détente, voilà. Yael Nazeh, demain, c'est aussi l'avenir. Et aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Mm-hmm. Ça inquiète beaucoup de gens. Ça est utile à beaucoup d'autres. Est-ce que dans votre domaine de l'astronomie, c'est quelque chose d'intéressant et de très utile aujourd'hui?
Alors, ça dépend ce qu'on fait avec, mais effectivement, il y a un certain nombre de projets où j'ai des collègues qui utilisent de l'intelligence artificielle sous différentes formes. Hein. C'est pas vraiment le genre ChatGPT nécessairement, oui. Hein, mais donc qui utilisent, oui, d'intelligence artificielle pour analyser des données, parce qu'on peut avoir aussi parfois des ensembles de données extrêmement importants. Et donc, pour pouvoir trier, pour pouvoir chercher un peu des relations, par exemple, entre paramètres, c'est difficile de le faire à la main.
Oui.
Effectivement, on utilise à ce moment-là des outils d'intelligence artificielle. Donc, c'est un outil qui peut être extrêmement utile. Alors après, évidemment, on peut partir dans la science-fiction avec des intelligences artificielles qui sont au-delà de l'outil et qui sont vraiment intelligentes, ce qu'elles ne sont pas encore aujourd'hui. Mais là, on passe dans un autre domaine, quoi.
Mais ça veut dire que ça peut faire peut-être l'utilité de l'intelligence artificielle, vous parliez du temps long tout à l'heure de votre travail, ça peut faire gagner du temps, peut-être dans certaines analyses.
Dans certains cas, dans certaines analyses, certainement. C'est pas non plus quelque chose de miraculeux, hein. Il faut bien savoir ce qu'on fait, parce que quelque part, on va entraîner ces outils et on les entraîne avec ce qu'on sait. Donc forcément, si on oublie quelque chose, on ne saura pas le récupérer à la fin, quoi.
Oui,
donc,
oui.
Voilà, donc il y a certainement des limitations à ce genre de technique, mais c'est clair que ça peut être utile quand vous vous retrouvez avec des terabytes de données comme, on a le télescope Vera Rubin qui commence à observer en continu. Voilà, c'est chaque nuit, il y a des quantités astronomiques de données, vraiment astronomiques pour le coup, et c'est pas possible de regarder tout. Et puis, il y a des choses là-dedans qui sont moins intéressantes que d'autres. On va par exemple s'intéresser à voir des choses qui apparaissent comme des explosions de supernova ou des étoiles qui varient ou des choses comme ça. Et donc, pour faire le tri, ça va être beaucoup plus facile, évidemment, si on a un tri automatique.
Oui, je vous arrête pour vous demander ce que c'est qu'une supernova.
Ah, une supernova. Alors, les supernovas, il y en a plusieurs types, mais typiquement, c'est une mort d'étoile. Alors, ça peut être une mort d'étoile toute seule, une mort d'étoile massive. Le Soleil ne fera pas une supernova. Il va faire un petit pouf, comme ça, quand il mourra. Mais les étoiles massives, ça, c'est beaucoup plus violent. Et donc, ça fait un grand boom, on va dire. Et là, on a cette explosion de lumière très forte. D'où le nom de supernova. Nova, parce que c'était une nouvelle étoile. Hein, donc, on voyait apparaître un flash lumineux. Et puis, super, parce qu'il était particulièrement brillant. Donc, voilà l'idée du nom. Alors, il se fait aussi qu'il y a un deuxième type de supernova, où là, c'est un peu particulier, où on a deux étoiles dont typiquement au moins une des deux qui est un cadavre de soleil. Et ce qui se passe, c'est que ce cadavre de soleil, il absorbe un petit peu de matière de sa voisine, hein, et il grossit, mais il y a une limite de stabilité. Et quand il passe cette limite de stabilité, il va s'effondrer. Et donc là, poum, de nouveau, et on se retrouve aussi avec une supernova.
Cette explosion.
Donc c'est une mort directe, soit c'est un cadavre qui refait, qui meurt une deuxième fois.
C'est chouette, les étoiles, elles ont deux vies.
Elles ont plein de vies. Oui, les cadavres stellaires, c'est quelque chose d'extrêmement actif. Hein. Le côté zombie, on est blindé. Hein.
Est-ce que vous, ça vous inquiète, au-delà de votre domaine, cette intelligence artificielle, Yael Nazeh?
Oui, certainement. Alors, pas encore pour l'idée science-fictionnesque, hein, de pure intelligence, puisqu'on n'y est pas encore, mais dans le fait qu'on a justement parfois une perte d'esprit critique par rapport à ce qu'on reçoit. Il ne faut jamais oublier que c'est les outils habituels d'intelligence artificielle. Ben, ils vont montrer ce que fait une majorité, mais la majorité n'est pas nécessairement la bonne solution, je vais dire, quelque part. Et donc, il y a parfois des choses un peu particulières qui peuvent se produire au niveau sociétal, quoi, en ayant, je vais dire, en se basant uniquement sur ce qui sort d'intelligence artificielle qui ont été entraînées d'une manière particulière, hein, et donc les concepteurs peuvent biaiser forcément aussi ça. Donc voilà, la question c'est, enfin pour moi c'est vraiment de pouvoir prendre un peu de recul et d'être capable de se dire, ok, qu'est-ce qu'on me dit exactement, d'où est-ce que ça vient, et voilà, le côté réflexion, oui. Quoi. C'est comme parfois avec une calculatrice, on fait le calcul et puis c'est bon, et on se dit la calculatrice a toujours raison, oui mais parfois on a mal rentré le truc dedans et donc on a une mauvaise réponse à la fin, quoi. Donc il faut garder un œil critique sur ce qu'on a. Et c'est pas nécessairement toujours évident.
Ouais, et pousser la réflexion peut-être un peu au-delà de ce qu'on nous donne.
De ce qui est prémâché, quoi. Oui. Il y a des choses qui sont, peut-être, enfin, de nouveau, hein, des vues majoritaires qui ne sont pas nécessairement toujours tout ce qu'il faut faire et la seule solution et la seule façon de voir voir le monde ou de voir un problème, quoi. Donc. Oui. La diversité est une richesse aussi qu'il ne faut pas oublier.
On a évoqué la symbolique de l'astronomie dans différentes matières culturelles. Mm-hmm. Et vous me disiez tout à l'heure, par exemple, la musique et l'astronomie sont intimement liées.
Oui, en fait, on ne se rend pas compte à quel point les choses étaient souvent liées par le passé. Et l'astronomie et la musique, c'est un bel exemple. Alors, si on prend au côté, on va dire, occidental, hein, en fait, on imaginait que quand les planètes se déplaçaient, elles émettaient un son, qui était une espèce de son céleste parfait. C'était la musique des sphères, comme on l'appelait à l'époque. Et l'idée, quand on faisait de la musique sur Terre, c'était de pouvoir retrouver cette harmonie parfaite. Et comme à l'époque, on connaissait sept planètes au sens antique, hein, alors c'est pas les planètes actuelles, mais bon, la gamme est composée de sept notes.
Eh oui.
Et donc voilà. Alors ce qui est amusant, c'est qu'en Chine, alors eux ont définissé les choses un petit peu différemment, et donc ils avaient cinq planètes, mais ils avaient la même idée, cette idée de son cosmique parfait qu'il fallait retrouver par rapport à de la musique écrite sur Terre. Et donc eux sont sur une gamme de cinq, parce qu'ils avaient cinq planètes, mais c'est cinq notes aussi. Et donc on a vraiment cette écriture musicale qui au départ est vraiment liée profondément à l'astronomie.
Les étoiles, c'est aussi une symbolique très, très forte dans la vie des gens, de tout le monde, parce que d'abord c'est le ciel, c'est l'idée de l'infini. On parle de bonne étoile, on parle d'une nouvelle étoile dans le ciel quand quelqu'un disparaît sur Terre. Et il y a toute cette symbolique aussi qui est liée aux étoiles.
Voilà, c'est une conséquence de ces liens qui sont très très anciens et très très étroits entre l'astronomie et la culture. Ça faisait vraiment partie, on l'oublie aujourd'hui, hein, mais ça faisait vraiment partie de nous. Et donc, on avait forcément les dieux qui étaient dans le ciel, qui étaient des planètes, qui étaient des étoiles parfois. Et donc, on associait tout. On avait souvent cette idée que la Terre était le reflet du ciel. On retrouve ça très fort au sens vraiment littéral, hein, en Asie, où l'étoile polaire, c'est l'empereur. Et donc, on se retrouve, il y a la cité interdite qui est dans le ciel aussi. On a les différentes provinces. On a vraiment tout qui est la même chose, quoi. Et donc, on a les terriens qui doivent un petit peu se comporter comme on le voit dans le ciel, qui sert un peu d'exemple, quelque part. Je l'ai dit, hein, le ciel, c'est utile. Ça permet de définir les calendriers, ça permet de définir la route à prendre, hein, où est le nord, où est le sud, etc. On va le faire avec le ciel. Mais au-delà de ça, on a des étoiles qui brillent. Alors bon, on sait que faire de la lumière, c'est pas simple. Quand on a essayé de faire du feu, ça nous a pris longtemps. Et là, elles le font apparemment sans effort, hein, ces étoiles et ces planètes. Elles sont au-dessus. Et ça, pour les anciens, c'était important. Si c'était au-dessus, c'est que ça avait plus de valeur, quelque part, que nous. D'où l'idée de suivre leur exemple. Et puis, ces étoiles et ces planètes, elles se levaient tous les jours. Ce qui n'est pas notre cas, évidemment. Hein. Un jour, on ne se lèvera plus. Et donc, il y a une question comme ça d'immortalité, de puissance qui est associée à ce ciel et qui nous suit. Et c'est tellement imprégné dans la culture qu'effectivement, même encore aujourd'hui, on a gardé des expressions, des traditions, des habitudes.
Et même des croyances aussi.
Oui,
hein.
Bien sûr, oui, des croyances aussi. Tout ça lié au ciel parce que bah, voilà, c'est une longue histoire conjointe.
Est-ce que les étoiles, pour vous, spirituellement, ça représente quelque chose aussi? Est-ce que vous avez un rapport comme ça en vous disant il y a une bonne étoile quelque part qui veille sur moi?
Le truc, évidemment, c'est que justement, quand moi je travaille sur les étoiles en particulier, oui. Ben, quand on les regarde, on se dit ah oui, alors toi t'es une étoile comme ça, ouais, non, moi je préfère celle d'à côté parce que celle-là elle est mieux, et puis enfin voilà. Et donc, évidemment, quand on regarde les étoiles, on n'a pas le même rapport parce que des objets qu'on étudie,
bien sûr. Mais vous pouvez avoir une étoile préférée, par exemple, ou une planète ou quelque chose,
oui, ou des étoiles qu'on ne veut plus voir parce qu'on a tellement travaillé dessus,
ah oui,
qu'on en a marre parce qu'on n'arrive pas à savoir ce qu'elles font. Oui. Ça arrive aussi. Mais oui, forcément, on a toujours quelques petites étoiles préférées. Là. Oui, il y en a plein en fonction des sujets. Là, pour le moment, j'ai beaucoup travaillé depuis plusieurs années sur des étoiles d'un type particulier. Et leur mère à tous, hein, le prototype, c'est une étoile qu'on peut voir tous les jours, enfin, quand le ciel est dégagé, évidemment, qui est dans la constellation de Cassiopée, au milieu du fameux W de Cassiopée. Et cette étoile-là, ben voilà, on vient enfin de comprendre ce qui se passait dans cette étoile. Après des années de recherche, ça fait 50 ans en fait qu'on a trouvé un truc bizarre dans cet objet-là, et il a fallu 50 ans pour résoudre le problème. Beaucoup de gens ont travaillé, on a enfin réussi à l'avoir.
Ça doit être une solide victoire, ça. Qu'est-ce qu'on éprouve à ce moment-là, au moment où justement...
On est forcément super content. Alors maintenant, c'est pas la réponse qu'on espérait nécessairement, ouais. mais c'est pas grave. Je veux dire, quelle que soit l'idée qu'on s'était construit avant, c'est la nature qui va nous donner la solution, ouais. Qui nous dit ce qui se passe. Et il faut l'accepter, même si ça ne nous plaît pas. C'est un long processus et on se dit on a enfin, et on est quand même très content, et c'est jamais un truc qu'on fait tout seul, hein, faut pas croire, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça, comme je dis déjà, ça fait 50 ans que plein de gens travaillent, pas seulement moi quoi, toutes des équipes différentes ici sur ce travail-là en particulier. Il y a des gens qui sont aux États-Unis, des gens qui sont au Japon, enfin c'est un travail vraiment très collectif. Et on voit que ça paie au final, même s'il a fallu longtemps, mais on sait que on y arrive.
Vous aimez ce podcast? Et si vous le partagiez avec vos amis, par exemple, plus on est écouté et plus on peut vous proposer de nouvelles rencontres intéressantes. Donc n'hésitez pas à nous faire connaître, on a besoin de vous. Et si vous avez envie de nous laisser vos impressions, on a une adresse mail, lespetitspapiers@rtbf.be. Moi, je serais ravie de vous lire en tout cas et d'échanger avec vous. Mais pour l'heure, un autre petit papier, bien sûr.
Alors, obstacle. Oui, des obstacles, il y en a forcément plein. Hein. Si on regarde dans le travail de tous les jours, déjà, on ne peut pas avoir des données quand on veut, comme on veut. Hein. Il faut... parce que moi, je suis astronome observationnel, donc j'ai besoin de données pour travailler. Et ces données, il faut les demander. Donc, on écrit des projets. Et puis, il faut savoir que, typiquement, sur beaucoup de télescopes, il y a... 6 à 10 fois plus de demandes que de temps disponible. Donc, ça veut dire que même si vous avez une bonne idée, il y a quand même peu de chances de passer. Donc, c'est compliqué. Et puis après, dans les données, vous n'avez pas nécessairement ce à quoi vous vous attendez. Vous avez du bruit, vous avez des problèmes que vous devez résoudre. Il faut essayer de comprendre, de mettre tout ensemble. Donc, forcément, il y a un certain nombre d'obstacles, et finalement c'est ça la recherche, hein. C'est essayer de passer au-dessus et de finir par arriver quand même à résoudre la question qu'on s'était posée au départ.
Ouais. Si je vous ai mis ce mot, c'est pour qu'on puisse aussi peut-être un peu parler de la place des femmes dans l'astronomie, où je pense que c'est plutôt pas mal, hein. En tout cas, pour ce qui est du master en astrophysique à l'Université de Liège, je pense qu'il y a 50% de filles au départ.
Oui, et pas seulement chez nous. Hein, je vais dire, si on prend le master à Paris, c'est un peu pareil. Donc, typiquement, côté occidental au sens large, hein, États-Unis, Europe, on est à moitié-moitié à peu près au niveau des études de master en astronomie. Et aussi pour les doctorats, on est souvent à peu près moitié-moitié. Ça diminue après le doctorat.
Mais voilà,
le doctorat.
Après le diplôme, il semblerait que, par contre, en termes de postes occupés, et il y a beaucoup moins de femmes, 20%. C'est
oui,
ça.
Donc on est à la moyenne mondiale et la Belgique est pile dans la moyenne. Ouais. On est à 22% en fait au niveau de l'Union astronomique internationale. Donc là, c'est les astronomes professionnels. Hein. Oui, ça, on en perd en cours de route.
Ah ben voilà, justement, quels sont les obstacles qui empêchent les femmes d'occuper des postes permanents ensuite ou de trouver dans leur domaine ?
Alors, je crois que ce sont des obstacles qui ne sont pas liés au domaine. On le voit bien puisque dans les études, hein, c'est pas du tout le problème. Il y a d'autres études où le ratio, est très différent. On prend l'informatique, hein, c'est vraiment très différent. Mais en astronomie, clairement, le problème n'est pas les études. Et donc, ça montre bien qu'en fait, le problème est plutôt au niveau sociétal, à côté. C'est le problème de devoir avoir des postes très prenants. On va retrouver le même genre de problème si vous voulez devenir CEO d'une grande entreprise ou si vous voulez faire de la recherche en n'importe quoi. Enfin, je veux dire, quel que soit le cas. Donc, ce sont des postes très prenants et... On voit tout de suite, par exemple, en Allemagne, il y a beaucoup moins de crèches. Et on voit tout de suite qu'ils ont un taux de femmes astronomes qui est moins élevé. Parce que, quand vous avez un enfant,
c'est quand même toujours ce stéréotype qui fait que la femme va s'occuper de l'enfant.
Oui, partir, parce que souvent, après votre doctorat, vous partez. C'est fortement recommandé, en tout cas. Si on a des gens qui sont en couple, quand l'homme part, en général, la femme accompagne, mais l'inverse n'est pas nécessairement vrai. Mais le problème n'est pas pour moi, il n'est pas du tout dans le domaine lui-même. Il est dans la société qui est autour. Et donc, quand on a des cas où l'aide pour la famille, par exemple, est plus facile, alors pour des bonnes ou des mauvaises raisons, vous prenez en Italie, c'est la maman qui va s'occuper des petits-enfants ou des choses comme ça. Hein. Si vous prenez en Argentine, c'est parce que le personnel de maison est très bon marché. Alors, ce qu'on peut évidemment déplorer, hein, parce que les conditions sociales ne sont pas nécessairement parfaites. Mais voilà, du coup, on a tout de suite plus de femmes qui vont atteindre ce genre de postes très prenants. Disons que ce qu'il y a en astronomie, et qui est un peu particulier, c'est qu'on a des femmes astronomes depuis très longtemps. On en connaît déjà dans l'Antiquité. On a quand même depuis la Renaissance, des grandes figures, pas seulement en Europe d'ailleurs, hein, on en retrouve aussi en Chine par exemple. On a cette visibilisation des femmes en astronomie depuis quand même très très longtemps.
Oui, mais on ne les connaît pas. C'est ce que avez consacré un ouvrage au sujet des femmes et de l'astronomie. Mais,
ça s'améliore quand même.
Oui, d'accord, mais la base de l'ouvrage, c'était de dire quand même, citer 5 femmes astronomes... Moi, je peux citer Yael Nazé, quoi. Mais après, au-delà de ça, non, mais c'est vrai.
Mais ouais. Là, on parle de grands noms, pas. Mais donc, des grands noms en astronomie, il y en a eu. Hein. Oui. Il y a tout le harem de Harvard. Et je crois qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'ai écrit le livre, je l'ai écrit à la fin de ma thèse, hein, donc ça remonte maintenant.
Ça date quelques années.
Ça fait deux décennies, donc quand même. La situation a quand même changé. Je crois qu'on a fait beaucoup de choses depuis. Il y a eu des films aussi, comme par exemple les femmes à la NASA.
Les
figures de l'ombre. Petit à petit, on a quand même un certain nombre de... Je veux dire, dans la culture, on voit petit à petit apparaître des choses. Encore récemment, je voyais qu'il y avait un dessin animé qui sortait. Alors là, ce n'est pas de l'astronomie, pour le coup, mais sur Marie Anning, en géologie. Donc, je crois que petit à petit, on commence à voir apparaître...
À raconter, en tout cas, ces femmes.
Voilà. Elles sont là, il y en a... Et nous, on a la chance d'en avoir quand même beaucoup. De ces figures-là. Mais si vous prenez, prenez un bouquin de Camille Flammarion au 19e, il va vous parler de femmes astronomes. Il a même des chapitres entiers où il parle de ces femmes qui ont fait de l'astronomie avant lui, quoi. C'est des choses qui existent et elles sont à des positions importantes. On a eu une présidente de l'Union astronomique internationale, une présidente, une DG comme on dit, l'Observatoire européen austral. On a des femmes qui sont chefs de mission, donc on en a.
Oui,
on les voit de plus en plus. Donc c'est pas encore dans le pire des cas, mais c'est vrai que c'est pas nécessairement si évident que ça. Et je crois que c'est C'est pas dans le domaine, ce qu'il faut regarder, c'est ce qu'il y a autour. Mmh. Et on voit bien les différences de pays à pays, hein. C'est assez clair.
Alors, vous faites partie du comité genre de l'Université de Liège.
Oui.
Qu'est-ce que c'est le comité genre de l'Université de Liège et qu'est-ce qu'il défend ou qu'est-ce qu'il essaie de mettre en place?
Alors, l'idée, en fait, c'était au départ un petit groupe hein, de gens qui étaient intéressés par toutes ces thématiques, qui s'étaient mis ensemble et qui voulaient réfléchir à essayer de voir comment proposer des points d'attention aux autorités en leur disant bah, « Tiens, ça serait bien de penser à ça ou à ça, aux crèches par exemple. Mmh. » Et donc, le comité Jean s'est un peu constitué. Je ne suis pas du tout le leader du comité. Mais, et donc, aujourd'hui, ça fait déjà quelques années qu'au niveau gouvernemental, c'est obligé de faire un rapport hein, sur justement l'état de la question dans les universités. Donc, on a des personnes responsables. Et donc, le comité sert quelque part d'aide, de conseiller pour essayer de trouver des thèmes qui sont importants dans la communauté universitaire et pouvoir dire bah, ça serait bien qu'on réfléchisse à ce problème-là et trouver une solution pour ce genre de choses. Et donc voilà, c'est à ça que sert ce genre de choses. C'est vraiment à essayer de réfléchir de manière large pour venir avec des thèmes qui sont vraiment dans la pratique. Quoi.
Oui.
Donc pour les chercheurs, les étudiants, oui. Les administratifs, des thématiques qui ressortent et dire bah, voilà, il y a telle chose qu'on peut faire. Quoi.
Il y a, ça a été prouvé que ce n'était pas le cas, mais il y a eu longtemps une disposition à dire que les filles n'étaient pas faites pour les maths et les sciences et les garçons,
oui.
Par contre, l'étaient. On a prouvé aujourd'hui que c'est faux, hein, qu'il n'y a pas de disposition, de prédisposition de l'un ou de l'autre. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, on sort un peu de ces idées reçues et que dans l'enseignement aux jeunes enfants, non, on y est toujours là.
On y est toujours et alors, il y a des recherches encore récemment, il y a quelques mois qui sont sorties, qui montrent que ce genre de stéréotypes s'installe très très tôt. Donc, il y a une étude en France qui a montré vraiment quand les gamins arrivent début de maternelle, début de primaire, on ne voit pas de différence. Et puis, très vite, les différences s'installent. Et alors, c'est marrant parce que vous prenez un exercice, vous le présentez comme de la géométrie ou du dessin, vous n'allez pas avoir, alors que c'est le même exercice, hein, vous n'allez pas avoir le même taux de réussite, on va dire, d'un côté ou de l'autre.
Ah oui.
Parce que la présentation a de l'importance et que les stéréotypes ont la vie dure. Et je dirais même que les stéréotypes reviennent. On sait qu'il y a quand même un certain nombre de courants masculinistes ou quoi qui font partie des conservatismes, hein, de manière générale, qui font un retour quand même en force. Certes, il y a une partie de la population qui va être très attentive à ce genre de choses et qui va s'arranger pour que tout le monde, qu'un garçon puisse faire un métier dit de fille ou qu'une fille puisse faire un métier de garçon. Enfin, je veux dire, on s'en fout, quoi. Enfin, voilà, ils font ce qu'ils veulent. Et puis, il y a quand même toute une partie qui est en train de au contraire, d'aller faire une marche arrière. Et donc, en fait, quand on fait des sondages chez les adolescents aujourd'hui, c'est pas nécessairement mieux que chez les adolescents d'il y a 20 ou 30 ans, au contraire. Donc, voilà.
Vous, quand vous aviez émis l'idée d'être astronome assez jeune, hein, vos parents vous ont assez soutenu, mm-hmm. Je pense, mais est-ce que dans votre environnement scolaire, vous avez été confronté à ce type de réflexion en disant « oui, mais c'est pas pour les filles ».
J'ai pas eu l'impression.
Ouais.
Enfin, si ça s'est passé, je vais dire, j'ai pas...
Vous ne l'avez pas entendu?
Je ne l'ai pas remarqué.
Mais peut-être parce qu'il y avait un soutien fort à côté,
oui,
ou en tout cas des parents qui avaient envie que vous alliez vers vos envies.
Exactement, c'était ce que je voulais faire. Mais on dit, bon voilà, ok, c'est ce que tu veux faire, très bien. Enfin, on n'y connaît rien, mais bon, pourquoi pas. J'ai des collègues qui ont eu beaucoup plus de mal. Hein.
Ah, oui.
Je me souviens d'une collègue grecque qui, elle, ça a été plus compliqué parce qu'elle avait des frères. Et alors, bon, ben voilà, l'université, c'était pour les frères. Alors que les frères ne s'intéressaient pas justement à ça. Et qu'elle, c'était le contraire. Elle s'y intéressait. Et donc, ça a été... Elle a eu beaucoup plus de mal à pouvoir simplement mettre les pieds dans des études, on va dire, plus mathématiques et plus scientifiques. Mais moi, j'ai pas eu ce problème-là au niveau à la maison, quoi, au niveau local. Et je sais pas, comme je dis, je l'ai peut-être pas vu, mais j'ai pas eu l'impression non plus autour.
On vous a pas découragé, en tout cas. On vous a pas dit, c'est pas pour toi.
Pas spécialement, non. Je crois que j'ai beaucoup embêté mes profs de sciences en posant des questions, ça, oui. Mais bon, à part ça, je crois pas que. Mais de nouveau, c'est très personnel aussi. Oui, hein, oui. Ça varie très fort d'une personne à l'autre.
Des jeunes et des enfants, vous en croisez quand vous faites des conférences ou à d'autres occasions de transmission. Comment vous faites justement pour leur... Est-ce que vous essayez de leur dire qu'il n'y a pas de genre pour pratiquer ce métier?
Moi, ce que je leur dis, c'est de rester curieux, en fait. Ouais. Rester curieux de tout, que ce soit de l'univers, des sciences, etc. Et que si c'est ça qu'ils veulent faire... Allons-y, et qu'il n'y a pas qu'une seule voie en fait. Hein. Parce qu'il y a des gens parfois qui sont extrêmement intéressés par l'astronomie, mais qui se disent en tout cas pas bons en maths, et qui se disent mais c'est dommage parce que j'aimerais bien faire un truc lié à ça. Je leur dis, mais en fait, dans le spatial, il n'y a pas que les fonctions mathématiques, les trucs de chercheurs ou de choses. Il y a plein d'autres choses. On peut aller très loin, hein. On peut aller chercher des gens qui font des assurances de satellites. Hein. Donc voilà, il y a tout un côté légal aussi au spatial. Donc travailler dans le spatial, c'est aussi quelque chose très large. Ça peut prendre des gens avec des compétences complètement différentes. Donc il ne faut pas non plus se braquer absolument et se dire « c'est pas pour moi ». Il faut essayer. Si on n'essaie pas, on ne peut pas savoir. Et en fait, on croit parfois qu'on n'est pas bon en maths, et puis en réalité, on l'est. Enfin voilà, moi je me souviens, ma fille disait toujours en primaire, non mais moi je suis littéraire, je ne suis pas du tout matheux, ce n'est pas pour moi les maths. Bon, elle est en maths forte et elle se débrouille très bien. Quoi. Donc maintenant c'est le contraire, elle va plutôt avoir tendance à dire, non mais finalement, je suis plus matheuse que littéraire. Donc on se met parfois des étiquettes, où on se les met à cause de l'entourage, ça peut être l'entourage scolaire, pas nécessairement à la maison, quoi. Sans raison. Donc je crois qu'il ne faut pas se mettre trop de barrières. Il faut être réaliste par rapport à ses capacités, ça c'est clair. Il ne faut pas se croire un champion si on ne l'est pas, quoi, je veux dire. Ça c'est évident. Mais d'autre part, les choses sont plus ouvertes que ce qu'on ne pense. Et donc, voilà, essayez, intéressez-vous, regardez. Les choses sont plus vastes que ce que vous ne pensez.
Visiblement, dans la série Star Trek, à la base, le personnage de Number One était, dans le projet initial, était une femme. Les producteurs ont refusé. Et donc, Nichelle Nichols est l'actrice qui incarne le lieutenant Uhura dans Star Trek, qui est l'agent de communication. Voilà, c'est finalement ça a été le deuxième choix, mais ça a été important quand même de maintenir une femme dans cette série à un poste clé.
Oui, c'est une longue histoire, hein. Les femmes astronautes, c'est quelque chose de très particulier. Et c'est vrai qu'il y a eu des efforts par des médecins en fait au début des années 60 suite à la sélection des fameuses sept astronautes de Mercury. Et il y avait des médecins qui se sont dit mais tiens finalement. En fait, ils avaient besoin d'astronautes pas trop grands parce que les cabines... Puis ils se sont dit, mais finalement, des gens pas trop grands, les femmes, elles sont plus petites que les hommes, donc pourquoi pas les femmes? Et puis finalement, les femmes, c'est peut-être résistant. Donc ils ont fait des tests, ils se sont rendus compte que, en fait, les femmes réussissaient mieux que les hommes, tous ces tests-là. Et donc, on a comme ça deux médecins très enthousiastes qui ont essayé de monter une équipe de femmes qui sont fait, je veux dire, assez rapidement arrêter hein, par le Congrès, par la NASA, enfin bon, voilà. Bon, l'idée était quasiment enterrée, hein, pas seulement côté américain, côté russe aussi. Hein. Bon, ils ont lancé Valentina Tereshkova, mais...
Oui, qui a été la première femme dans l'espace, mais qui a servi un peu
de prétexte.
Voilà. De dire, on l'a fait, regardez, ça marche.
Elles sont nulles de toute façon parce qu'ils ont dit qu'elle avait été malade, etc. Alors, c'est peut-être pas faux qu'elle ait été malade, mais elle n'était pas la seule. Il y avait des hommes aussi qui étaient malades, mais là, on ne le disait pas. Enfin bon, donc, je veux dire, dans les années 60, on s'est retrouvés avec, non, il y avait la femme de l'astronaute, hein, ça c'est d'accord, hein, c'était très bien, mais bon, les femmes astronautes, ça non. et arrive Gene Roddenberry avec son idée de série. Alors, il faut se rendre compte, hein, à l'époque, qu'il met quand même un Japonais, il met un Russe, il met des Américains ensemble, qui travaillent ensemble. Et c'est déjà rien que cette idée-là était déjà révolutionnaire. Mais alors voilà, il veut que l'adjoint du capitaine Kirk soit une femme. Les studios refusent. Et il se dit, bon, OK, mais il y aura quand même une femme dans le cockpit. Et en plus, il choisit une actrice noire.
Ouais.
Ça a été aussi un choc assez important. Et bon, alors, on a l'impression qu'elle ne fait pas grand-chose, parce que c'est vrai que c'est peut-être pas le personnage le plus intéressant de la série, mais elle est là.
Elle est là, ouais.
Elle est là et elle montre qu'elle est tout aussi compétente que les autres, quoi, dans ce qu'elle doit faire. Et la série, elle n'a pas eu beaucoup de succès au début, mais elle était beaucoup reprogrammée. Et au fil des rediffusions, elle a pris de plus en plus d'importance. Et Nichelle Nichols elle-même, donc l'actrice, elle n'était pas dupe du tout. Et donc, elle a profité du fait qu'elle commençait à être connue pour dire ben, « ça serait quand même bien d'avoir une sélection qui permette aux personnes noires, aux Afro-Américains de postuler, ça serait bien d'avoir une sélection qui permette aux femmes de postuler ». Et donc, elle a commencé à faire de l'activisme un peu à côté. La NASA a été très embêtée.
Ouais.
Et bon, finalement, ils ont bien été obligés de dire ouais, bon, on va la prendre comme ambassadrice. Et donc, la sélection qui a eu lieu à la fin des années 70, on a eu enfin les premiers Afro-Américains et les premières femmes. Et donc, c'est comme ça qu'on a eu la première Américaine qui est partie dans les années 80. Donc, ça a été long, mais finalement, ce qui est marrant, c'est ce qui a fait la différence, c'est la fiction.
Mm-hmm.
Ça montre bien le pouvoir de l'art, quelque part.
Et Nichelle Nichols n'est donc pas innocente dans cette sélection de la fin des années 70, comédienne et chanteuse aussi. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'elle nous a quittés en 2022, Nichelle Nichols, et apparemment ses cendres ont été envoyées dans l'espace.
Oui, c'est Jean Roddenberry aussi. Hein. C'était quand même une figure importante, justement, parce qu'elle a initié ce mouvement. Mais maintenant, c'est vrai qu'on commence à avoir tout doucement hein, des femmes astronautes. Alors, elles ne sont pas en grand nombre, mais il y en a quand même. On en a une hein, qui est en ce moment, justement, dans l'espace, la deuxième française. On n'a pas encore de Belge. Peut-être un jour.
Vous dites, Yael Nazé, que ça ne vous dit rien, vous n'iriez pas.
Non, déjà j'ai une très mauvaise vue, enfin, je crois que je ne passerai aucun test.
Oui,
je me ferai arrêter au premier test, ce n'est pas la peine.
Enlevons tout cet aspect technique, test et autres, ça ne vous dit pas, vous n'aimeriez pas y aller?
Moi, ce que j'aimerais bien, c'est un petit USS Enterprise ou un Falcon Millennium pour aller plus loin, parce que bon, tourner autour de la Terre, ouais, certes, mais moi j'aimerais bien aller voir mes étoiles en fait.
Ben oui, voilà, c'est ça.
Pour voir ce qu'elles font, parce qu'il y a des fois, franchement, quand on les regarde, on se demande vraiment ce qu'elles font. Et donc avoir un truc qui permettrait d'aller voir de près, là, ça serait quand même vachement marrant.
Alors, évidemment, il y a toute cette idée du tourisme spatial qui se développe, qui est assez scandaleuse et qui, j'imagine, n'entre pas dans vos convictions. Mais malgré tout, ce n'est pas un rêve du tout. Ça n'a jamais été un rêve.
Non, moi, mon rêve, c'était de faire de l'astronomie, pas de l'astronautique. Hein, donc, voilà, moi je suis bien avec mes étoiles.
Les pieds sur terre. Avec la tête dans les étoiles, les pieds sur terre.
Allez, on va prendre celui-ci. Creuser. Ah ben là aussi, on est un peu dans un mot qui est typiquement lié à la recherche. La recherche, c'est justement essayer de creuser, de voir quand on remarque un truc, on se dit qu'est-ce que c'est que ce bazar, et on creuse un peu la question. Donc c'est le boulot de tous les jours, de tous les chercheurs.
Oui, vous dites quand même que vous êtes quand même peut-être un peu obsessionnel quand vous attrapez un sujet et que vous y allez à fond. Donc
oui, mais je crois que c'est le cas de tous les chercheurs.
C'est le cas des chercheurs.
Oui, oui, quand on se dit que là, il y a quelque chose, on a tendance à y tenir et à essayer de trouver ce qui se passe. Et c'est râlant quand on ne trouve pas. Et bon, voilà, on y passe des années pour essayer de trouver la réponse. Donc, c'est quand même assez généralisé. Hein.
Est-ce qu'il y a des réponses qui peuvent arriver tout à coup, à un moment où on ne s'y attend pas, au moment où on n'est plus justement en position de travail, où on est en week-end, ou est-ce que ça continue à creuser quelque part dans un coin de la tête?
Oui, non, mais ça, c'est un processus assez classique. Hein. Il y a même des exemples célèbres de personnes comme ça qui
ne
comprenait pas. Oui, Eureka. Je pense à un autre qui en fait a trouvé la solution en faisant du cabotage sur des canaux en regardant un petit peu ce qui se passait. Il a vu son petit drapeau qui était à son mât qui bougeait et il s'est dit ah. Et alors du coup il a trouvé la solution à ce qu'il était en train de faire. Donc voilà, il y a des cas assez célèbres. Oui, forcément qu'on a toujours des choses qui tournent comme ça dans le fond et où c'est jamais complètement parti.
Oui.
On peut être évidemment complètement focalisé sur quelque chose et puis on est en train de faire autre chose et puis on y repense. Ou on va s'endormir ou en plein milieu de la nuit on se dit ah tiens, au fait, il y a ça. Oui, ça c'est assez évident. Mais de nouveau, je crois que c'est pas spécifique à juste aux chercheurs. Je crois que quand on prend justement des artistes, ils vont avoir la même chose. Ils vont parfois se dire ok, voilà, ça va pas. Et puis faire autre chose. Et puis ah tiens, je trouve la solution et se remettre sur ce qu'ils étaient en train d'écrire, de sculpter ou de peindre. Non, je crois que c'est assez typique de l'esprit humain d'avoir des processus comme ça qui sont en background, qui continuent à tourner, même quand on fait autre chose.
Une petite application qui tourne en fond, en continu. Il y a Yael Nazé, il y a la manière de creuser aussi, il y a les angles qu'on choisit pour le faire. On a évoqué la vulgarisation tout à l'heure, l'envie forte que vous avez de rendre les choses accessibles à tout le monde. Bah, pour ce faire, en tout cas, dans vos livres et dans vos conférences, vous choisissez des angles qui ne sont pas les angles habituels pour aborder la science et l'astronomie. Je pense, on a évoqué la musique tout à l'heure, mais aux couleurs, vous avez fait un livret où vous mêlez la cuisine et l'astronomie pour les plus jeunes. Il y a les bizarreries, l'étrange. Mmh. Il y a l'idée d'aller voir du côté des femmes. Ouais. L'art aussi, que vous avez...
Oui, ouais. Les aventures. C'est évidemment important de faire de la vulgarisation pour ceux qui s'intéressent aux sciences. On va un peu les titiller, ils aiment bien, donc donnons-leur ce qu'ils veulent. Mais je crois qu'il est aussi important à côté de voir tous ces gens qui ont, pour des raisons diverses, pas tendance à aller vers la science. Bon, ça peut être parce que ils ont un très mauvais souvenir de leur cours de science, ou qu'ils disent c'est pas pour moi, ou ça ne m'intéresse pas, ou c'est pas, j'en ai pas besoin. Enfin voilà.
Ce qui est mon cas. Ce que vous venez de citer, je me reconnais.
Mais en réalité, justement, c'est la science, elle est autour de nous tout le temps, et elle a aussi, il faut pas l'oublier, un impact particulièrement aujourd'hui. On est dans une civilisation quand même très technologique, donc il y a plein de questions citoyennes qui sont liées à des questions de science. Et donc, quelque part, c'est important de reconnecter les gens aux sciences. Et pour ce faire, moi, j'aime bien essayer de trouver des angles qui vont essayer de permettre de les accrocher. Alors, on va dire, on trompe un peu les gens. Hein. On leur dit qu'on va leur parler d'art et en fait, on finit par parler de science.
Ouais.
Mais quelque part, c'est l'idée, c'est de se dire ben, on va les attraper par un truc qu'ils aiment bien. Et puis, ils vont se rendre compte qu'en fait, finalement, la science, c'est pas... toujours si compliqué que ça. En tout cas, les bases, tout le monde peut les avoir. Ça vous concerne parce qu'il y a plein de choses dans votre vie qui sont liées à ça. Et donc, l'idée, c'est voilà, d'essayer de prendre un angle et de tenter beaucoup d'angles différents pour essayer de toucher différents publics et de les amener justement en jouant. Alors on joue aussi, on peut jouer sur un côté un peu spectacle, on peut jouer sur un côté un peu humour, sur un côté interactif, enfin il y a plein de choses possibles. C'est vrai que j'ai beaucoup creusé, hein, effectivement, pour trouver des différentes possibilités. Donc maintenant j'ai quelque part une offre entre guillemets hein, de conférences qui est assez variée. Donc voilà, j'ai des gens qui vont choisir un truc ou l'autre dans des structures peut-être plus classiques, qui veulent une conférence scientifique, ils auront une conférence scientifique classique. Et puis dans d'autres qui ne font pas de conférence scientifique mais qui veulent plutôt côté spectacle, c'est disponible aussi. Enfin voilà, donc il y a toute une panoplie différente avec le but, c'est vraiment d'essayer d'amener les gens, les prendre par la main et de leur dire n'ayez pas peur. On va faire ça à deux et vous allez voir, ça va être super sympa.
Quand on transmet, ou en tout cas quand on partage comme vous le faites, c'est pas que dans un sens, il y a des choses qui vous reviennent aussi. Qu'est-ce qui vous interpelle dans les retours du public, peut-être dans les conférences que vous faites pour des gens qui sont moins avertis de tout ce qui est scientifique, qu'est-ce qui vous étonne dans les réactions ?
Je ne vais pas dire qu'il m'étonne, mais moi, ce que j'aime bien, c'est quand il y a des gens qui vont venir à la fin et qui vont me dire... j'étais sûre que je ne comprendrais rien, je suis venue ici avec des pieds de plomb juste pour accompagner machin. Et finalement, j'ai bien aimé. Et finalement, j'ai compris. Et finalement, en fait, c'est super intéressant. Et donc, on se dit, ah super, ça fonctionne. Ce qui est amusant, c'est de réussir à essayer de provoquer cette réaction. Et d'avoir les gens qui vont vous dire, ok, ça, c'est, finalement, oui.
Ouais.
Je ne savais pas, mais finalement, oui. Et qui se disent, je vais regarder. Je vais regarder, faire un documentaire, je vais aller chercher un bouquin à la bibliothèque, je vais chercher un documentaire sur YouTube, ou enfin, quel que soit le truc. Mais se dire qu'on a essayé d'initier quelque chose et que ça a marché, c'est super, quoi. Donc, c'est pas complètement étonnant parce que c'est ce qu'on voulait.
Ouais, mais quand ça marche, c'est une belle récompense.
Voilà, donc c'est ça qui est super, quoi. Et de se dire, j'ai parfois des gens qui viennent et qui me disent, je vais en parler à mes petits-enfants, par exemple, des grands-parents qui me disent, je vais en parler à mes petits-enfants parce que finalement, ils pourraient faire ça, en fait.
Ouais.
Hein, et se rendre compte que, c'est une voie possible, c'est un métier possible. Si on arrive à faire ça, c'est gagné, quoi. C'est essayer de transmettre, justement, de normaliser quelque part l'activité scientifique qui n'est pas un truc dans une tour d'ivoire, mais qui est vraiment dans la vie de tous les jours et qui concerne tout le monde, quoi.
Vulgariser, rendre accessible, choisir des angles différents, c'est pas toujours bien vu du milieu scientifique. J'ai cru comprendre que certains de vos collègues, au début et lors de la sortie de votre premier ouvrage, Les couleurs de l'univers, vous ont regardé vraiment de haut.
Oui, pas seulement à ce moment-là. Hein. Oui. C'est clair que voilà, on peut avoir un peu de tout, des emails pas sympas, des insultes. Enfin.
Mais pourquoi en fait? C'est la tour d'ivoire, justement. Vous dites les sciences, c'est pas une tour d'ivoire. Il y en a qui sont dans la tour d'ivoire et qui ne veulent pas en descendre.
Alors. Peut-être, mais il y en a qui sont dans leur tour d'ivoire parce qu'ils se disent qu'ils ne veulent pas faire ce genre de choses parce qu'ils ne se sentent pas capables de le faire. Et je crois qu'il faut respecter aussi ça. Ces scientifiques qui ne sont pas prêts à aller faire de la vulgarisation, il ne faut pas les forcer. Mais bon, après, il y en a d'autres où, je ne sais pas, là, c'est à eux qu'il faudrait demander pourquoi ils râlent que d'autres fassent ça, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est parfois épuisant.
Bah, ça doit être difficile à recevoir au départ quand même, quand on oui. commence et qu'on se dit qu'on va ouvrir les portes oui. peut-être à d'autres et qu'on se fait prendre.
Maintenant, c'est vrai que, par exemple, moi, j'aime beaucoup écrire et que je ne me vois pas arrêter. Donc, je le ferai même si, voilà, ce n'est pas évident à côté, quoi. Et ce n'est pas évident, mais tant pis, on le fait quand même. Enfin voilà, je crois que voir justement, parce que quelque part toute cette vulgarisation, je le fais sur le temps libre, je le fais en plus, voir que justement au niveau du public ça marche, que les gens sont contents, bah, on se dit du coup bah, s'ils sont contents il faut continuer quand même, tant pis si c'est difficile, tant pis si tout le monde n'est pas content à côté, si au moins on atteint le but, bah, voilà, il faut continuer quoi. Donc c'est pas évident, mais on doit faire avec.
Ouais. Yael Nazé est avec nous aujourd'hui. Il paraît que vous aimez Baudelaire et que vous aimez Mozart.
Oui, c'est vrai. Mozart, c'est parce que quelque part, mon père écoutait beaucoup Beethoven quand j'étais petite. Donc voilà, Beethoven, qui est quand même pas le plus léger hein, ouais. Au niveau musique. Et puis, en fait, quand j'ai eu 10 ans, est sorti le film Amadeus qu'on a été voir. Alors, le film, on sait bien qu'il n'est pas réaliste au niveau historique, mais la musique, la musique dedans, ça a été une respiration terrible, quoi. Et donc, du coup, ben voilà, j'ai quand même toujours gardé une passion pour Mozart, quoi. Je ne me lasse pas d'aller voir et revoir les Noces de Figaro, c'est terrible. Mais bon, voilà, je sais que ma fille, elle est partie chez les Russes, hein, Prokofiev, Shostakovich,
oui.
tout
Votre
ça.
Votre fille s'intéresse à la musique, voilà. Elle, oui.
Oui, donc elle, c'est ce qu'elle veut faire comme métier. Hein, donc, avec deux parents astronomes, c'est clair que ce n'était pas l'astronomie qu'elle allait faire.
Ben, vous l'avez dit tout à l'heure que la musique et l'astronomie, il y a des liens. Et on dit souvent que la musique et les mathématiques aussi. Donc,
Ben voilà, j'ai une conférence que je fais avec elle sur la musique et l'astronomie, où elle joue et moi je cause. Hein. Ouais. Et donc, voilà, c'est vrai que c'était un moyen aussi de pouvoir faire quelque chose ensemble, parce que sinon, c'est vrai que... C'est quand même des domaines aujourd'hui hein, fort différents entre jouer de la musique et faire des recherches en astronomie. Donc oui, forcément Mozart et puis Baudelaire, bah, les mots. Hein. Il y a une saveur dans cette poésie qui, enfin pas seulement d'ailleurs chez Baudelaire, hein, mais je veux dire au niveau des mots vraiment avoir presque une musique justement
une rythmique.
Dans ces mots et quelque chose. Enfin je veux dire les mots bien alignés, bien. Enfin voilà ils forment un tout et c'est. Enfin on voit bien que déplacer une petite chose ça irait moins bien quoi. C'est. Je sais pas, j'aime beaucoup moi ces trucs très bien écrits. Donc Baudelaire mais aussi plein d'autres hein, et pas seulement de la poésie d'ailleurs hein, parce que ça peut être aussi dans de l'écrit de prose hein, qui est très bien, mais du théâtre aussi. Moi, j'en ai fait aussi un peu quand j'étais petite. Et il y a aussi voilà, des tirades, des choses comme ça qui sont très belles. Quoi. Je ne m'en lasse pas non plus.
Yael, vous avez évoqué plusieurs fois dans la conversation la science-fiction. Mm-hmm. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez?
Alors, j'aime bien la science-fiction, mais c'est vrai que j'étais beaucoup plus fantastique, moi, que science-fiction. Ce que j'aime dans la science-fiction, en fait, c'est quelque part, c'est l'exploration de différentes idées. Et donc, c'est super intéressant de se dire, bon, OK, si on a telle ou telle chose. Et alors, c'est marrant parce qu'on le retrouve très fort hein, quand on voit aujourd'hui, ben, quand on parle de colonisation spatiale, etc., on se dit... Ben, les gars, allez lire un petit peu de science-fiction pour voir toutes les possibilités.
Parce que, et il y a des œuvres de science-fiction qui sont devenues réalité.
Oui, mais aussi qui ont souvent une réflexion. Alors, même dans, quand on a de la, ce qu'on appelle la art science-fiction, hein, vraiment le truc très, très scientifique, entre guillemets, il y a toujours des idées derrière de philosophie, de sociologie très fortes. Et je crois que ça ferait un peu de bien à certaines personnes de relire ce genre de choses pour qu'ils aient un peu ces idées qui viennent des sciences humaines et qui réfléchissent un peu à ce qu'ils sont en train de faire et aux conséquences.
Oui.
De nouveau, c'est vrai que moi j'aime beaucoup le multidisciplinaire hein, et je crois qu'on gagnerait à avoir une formation large, que ça soit côté sciences humaines et étendue aux sciences ou que ça soit côté sciences et étendue aux sciences humaines, mais en tout cas de mêler parce que ce sont toutes des idées différentes et qui, quand on les mélange, nous font avancer, en fait. Mais alors, bon, le fantastique, j'ai gardé une dans mon cœur, genre, je sais que, voilà, on ne peut pas le lâcher. Et puis bon, forcément, quand on lit Poux, traduit par Baudelaire, justement, je l'ai lu dans le texte, franchement, c'est beaucoup mieux. Lisez la version française. Baudelaire a fait un boulot qui est vachement bon. mais genre, voilà, je sais que c'est très belgo-belge, hein, mais il y a quand même c'est des petites nouvelles, hein, et sur quelques pages, il vous instaure un truc, c'est quelque chose. Même si on ne lit plus beaucoup ce genre de choses aujourd'hui, je crois que ça vaut le coup de les redécouvrir.
Merci Yaël Nazé d'être venue dans Les Petits Papiers. Vous êtes la première astronome invitée de cette émission.
Ah ben merci.
Et ben voilà, c'était très intéressant et passionnant. Merci d'être venue.
Merci à vous.
Yaël Nazé est astrophysicienne maître de recherche au FNRS. Et puis, il y a de nombreuses publications à découvrir la concernant, de nombreux livres qu'elle a écrits. Le dernier en date s'appelle « Explorer le ciel, les planètes et la Terre, les grandes expéditions des astronomes ». Il est paru chez Odile Jacob. Avant cela, il y avait « Enquête d'astronomie » avec Dominique Proust. Il y avait « Astronomie de l'étrange » aux éditions Belin. Initiation à l'esprit critique, réjouissance. Elle en parlait tout à l'heure de l'esprit critique. Il y a art et astronomie, impression céleste. C'est paru chez Omniscience en 2015. Bref, pas mal d'ouvrages à découvrir ou redécouvrir si cette rencontre vous intéressait. Moi, je l'ai trouvée passionnante. Donc, n'hésitez pas à aller creuser, chercher un peu plus loin, comme elle l'expliquait tout à l'heure en parlant de son métier. On compte sur vos partages, vos commentaires, vos étoiles pour nous faire connaître. Et puis, à très bientôt pour de nouveaux mots et une nouvelle rencontre.